Bonjour à tous et à toutes. Et je tiens à vous remercier beaucoup encore une fois pour être si nombreux, malgré ce panique général du coronavirus. Donc je suis vraiment reconnaissant que vous ayez fait l'effort de venir. Donc aujourd'hui, on va aller un peu plus vers les histoires de ce qu'on peut faire avec la génétique. Comme vous avez vu la séance dernière, vendredi dernier, que j'ai dit que c'était un des cours les moins intéressants, donc vous avez survécu à celui-là. Donc à partir de celui d'aujourd'hui, en tout cas pour moi, on rentre vraiment dans le cœur de à quoi ça sert la génétique. Cette année, on va rester sur les applications de la génétique à l'histoire de l'homme, comme vous savez, à l'histoire de l'adaptation à l'environnement. Il y a la relation qu'on a avec les pathogènes, mais pour ceux qui sont intéressés à d'autres applications de la génétique, d'ordre plus médical, par exemple, ou reliées à l'immunologie, sachez que dans les prochaines années, on aura des cours, je vais faire des cours consacrés entièrement à ce genre de sujet. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir avant, le titre d'aujourd'hui, c'est comment la génétique nous renseigne sur les origines de l'homme et les migrations humaines. Pour cela, d'abord, laissez-moi vous montrer un peu de méthodologie, sans rentrer encore dans les détails techniques, mais juste pour que ça vous permette de comprendre ensuite le type de graphique que je vais vous montrer. Donc, comment on représente la génétique? Comment on représente les relations génétiques, que ce soit entre individus ou populations? Ce n'est pas nouveau, ça. Déjà, Lamarck et Darwin, pour ceux qui étaient à la conférence inaugurale, on en avait parlé un peu déjà, mais ce qu'on n'avait pas vu, c'est que les deux avaient déjà essayé de faire des brouillons d'arbres génétiques qui relient soit différentes espèces, soit différents groupes d'individus ou d'organismes. Comment on représente les relations génétiques entre, j'insiste, individus, populations ou espèces? On le représente en forme d'arbre. Un arbre n'est pas autre chose qu'une représentation schématique des relations entre individus, populations ou espèces. Les arbres peuvent être racinés, ça veut dire qu'on peut mettre une racine à cet arbre, comme c'est le cas ici. Et cette racine, c'est ce qu'on appelle outgroup, ça vient évidemment de l'anglais, et en français, c'est un exogroupe. Et c'est quand vous savez quel serait le lien le plus proche à tous ces individus-là. Imaginons que tous ces individus-là soient des humains. Qu'est-ce qu'on utiliserait comme exogroupe? Normalement, on a toujours utilisé le chimpanzé. De plus en plus maintenant, on utilise Néandertal parce que c'est encore plus proche à nous, sans être nous. Ça nous permet de voir quelles sont toutes les mutations dans ce qu'on appelle les branches qui nous distinguent de cet individu exogroupe. On parle de nodes quand c'est ce qui va émettre, disons, une bifurcation en deux branches. Et on parle de clades, comme par exemple ici en violet, comme c'est un groupe de branches reliées entre elles. Quand on ne veut pas prendre le risque de mettre une racine à l'arbre, une autre façon de travailler, faire des arbres, ce qu'on appelle des arbres en réseau. Ici, il n'y a pas de racine, ça montre juste les relations qu'il y a entre cet individu et cet individu, que pour passer de lui à lui, il faut passer par ici. Ici, il doit avoir plusieurs mutations qui distinguent lui de lui. Mais par contre, les arbres en réseau, parfois, n'est pas clair les relations directes entre individus, et c'est ce qu'on appelle des réticulations. C'est-à-dire, pour passer de cet individu ici à cet individu ici, on ne sait pas très bien s'il faut faire comme ça ou s'il faut faire comme ça. Exemple concret. Prenons ici 10 individus, de A à L, et le premier individu, on va le considérer l'individu de référence. Ça, c'est juste un morceau de leur génome, par exemple. Et les autres individus, par exemple l'individu B, les 10 individus B, parce que ça, c'est le nombre d'individus, ils ont 3 différences par rapport à la séquence de référence. L'individu C, qu'il y en a 10 aussi, il y a trois autres différences, que ne sont pas les mêmes WC, par rapport à l'individu de référence. Bon. Comment on représente ça? Parce que ça nous aide, in fine, à comprendre les relations entre individus ou populations. Donc, comme je vous disais, on peut le représenter en forme de cladogramme. Ici, par exemple, pour passer de l'individu A à l'individu B, vous savez qu'il y a trois différences. Donc, vous allez au B, vous le cherchez, il y a ici, donc vous voyez qu'il y a trois différences. Et ainsi de suite. Ce qui est intéressant des arbres en réseau ou network, comme souvent sont même en français utilisés, on utilise l'anglicisme souvent, c'est que vous avez aussi une idée, c'est la même chose, pour passer de l'individu A à l'individu B, vous voyez qu'il y a trois mutations. Et en plus, grande différence par rapport aux arbres en cladogramme, la longueur des branches sont proportionnelles au nombre de mutations. Ici, ce n'est pas le cas. Que ce soit une, zéro ou trois, c'est le même. Et deuxième chose intéressante des arbres en réseau, c'est que le nombre d'individus par population est aussi représenté. Vous voyez que A, B et C, qu'on a 10 individus, les cercles sont plus grands que les autres petits cercles qui représentent qu'un individu. Donc voilà ce qui sont les arbres génétiques. Deuxième type de façon d'étudier les relations entre populations humaines, c'est juste de calculer les distances génétiques entre populations. Et ça, on l'a un peu évoqué le cours dernier, que c'était les FST, mais je n'avais dit rien de plus. Qu'est-ce que c'est une FST? Une FST, c'est un index en statistique qui nous permet de donner un chiffre à une distance entre deux populations humaines. Et comment se calcule? Ce qu'on se calcule tout simplement entre la diversité qu'il y a entre deux populations moins la diversité qu'il y a au sein de la population divisé la diversité qu'il y a entre les deux populations. En gros, c'est une façon de dire combien cette population ici est différente de cette population là en tenant compte de la diversité interne qu'elles ont. Et je vous ai montré que les distances génétiques des populations humaines chez l'homme sont très faibles. On en a beaucoup parlé. Il y en a dit que c'est des environ 0,15, en sachant que l'FST peut aller de 0, que ça veut dire que tout le monde est pareil, à 1, que ça veut dire que tout le monde est différent. On avait vu aussi que chez l'homme, les populations humaines montrent très peu de différences génétiques par rapport à la diversité génétique qu'il y a au sein des populations, parce qu'on est, un, une espèce récente, et deux, il y a eu beaucoup de brassages. Si on applique ça au continent chez les humains, on peut voir que la plupart des différences génétiques, c'est au sein des populations, quelle que soit la population, environ 80%, suivi de la différence entre continents, que c'est que environ 15%, ce qui correspond ici à l'FST, suivi de différences quand même faibles au sein d'un continent entre les différentes populations. Si on prend par exemple une des dernières études, en classifiant les populations d'une façon extrêmement simpliste, que c'est Europe, Afrique subsaharienne, une population du Nigeria, on va voir bien que c'est absolument impensable qu'une population en Afrique représente la diversité africaine, mais bon, c'est un exemple, et les Chinois comme représentants de l'Asie de l'Est. Vous pouvez voir que toutes les distances génétiques varient entre 10 et 15-20 %. Les plus lointains étant, évidemment, quand on compare l'Afrique subsaharienne aux Chinois, parce que ce sont simplement les deux populations plus loin les unes des autres. Et on a vu que ceux qui façonnent le plus la diversité génétique de notre espèce, c'est la géographie. Plus loin on est d'Afrique, plus différent on sera. Une autre façon de représenter les relations génétiques entre populations, c'est ce qu'on appelle des ACP, ou des PCA, quand on utilise le sigle anglais, que c'est des analyses en composantes principales. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous voulez montrer les relations entre deux populations A et B, est très simple. Parce que, vous, par exemple, c'est juste une dimension, vous voyez qu'il y a quatre différences entre A et B. faut faire rien d'autre. Comme vous avez trois populations, vous pouvez les représenter en deux dimensions. Simple encore. Comme vous avez quatre populations, ça commence à devenir un peu compliqué. Montrer dans un espace les relations qu'il y a entre les populations, parce qu'ici, le but est que plus près sont deux populations, ça veut dire qu'elles sont plus proches génétiquement. Mais quand on travaille en génétique de population, souvent on a beaucoup de populations. Donc beaucoup de comparaisons deux à deux, ce qui fait vraiment impossible de les représenter en deux ou trois dimensions. Et c'est pour ça qu'on utilise ce que s'appelle l'analyse en composants principale, qui, pour la faire court, n'est pas autre chose que réduire les n dimensions qui correspondent aux 40 populations qu'on est en train d'étudier, par exemple, en deux ou trois dimensions juste. Et comment on fait ça? On décompose la variance expliquée, ça veut dire quoi? La façon comment on peut expliquer les différences génétiques en différents pourcentages, c'est-à-dire, ça veut dire, en gros, que une dimension va expliquer la plupart de la variance entre toutes ces populations. La deuxième, je dois m'approcher parce que j'ai changé de lunettes, mais ça ne va pas non plus, celle-ci. La deuxième explique un peu moins, 24%. La troisième dimension, que 15%, et ainsi de suite. En pratique, comment on voit ça? On le voit comme ça quand on est en deux dimensions, que c'est le plus utilisé en génétique de population. Et vous voyez alors que la population E et B sont plus proches entre elles que par rapport à C. Et on va voir beaucoup aujourd'hui d'exemples comme ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit clair sur c'est probablement l'analyse qu'on utilise le plus en génétique des populations. Et si vous avez une analyse en composant principal en deux dimensions, il faut commencer toujours comment ça s'interprète. D'abord, vous regardez la composante numéro 1, ou ce qu'on appelle souvent le PC1, que c'est celui-ci. Et comment ça se lie? Ça se lie à l'horizontale. Et qu'est-ce que ça vous dit? Que les bleus, que sont ici, dans cette région-là, sont les plus différents au violet. À l'horizontale, c'est le plus différent. Tandis que c'est ça qui explique le plus la diversité génétique de toutes ces populations-là d'Afrique, en l'occurrence. En revanche, le deuxième composant explique la différence en verticale, c'est-à-dire la différence entre les oranges et les bleus encore, parce qu'il faut les transposer ici. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a tout un tas de populations qui sont très semblantes génétiquement ici. Les couleurs correspondent aux populations que je vous montre ici en bas de l'Afrique. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux populations en particulier qui sont les plus différentes à toutes, les populations des Fulani et les populations des Boulala. On va voir plus tard des exemples concrets. Ces mêmes relations génétiques, on peut les représenter d'une façon beaucoup plus graphique. Et c'est sur des cartes géographiques. Ces cartes géographiques résument les différences génétiques entre les populations, en l'occurrence de l'Afrique. Et comment il faut les lire? De la même façon, le PC1, c'est la carte géographique qui explique le mieux, ou en tout cas le plus, les distances entre les populations. Et là, on voit, on peut le déduire tout de suite, c'est qu'il y a des différences nord-sud. C'est presque évident, on le sait, sans faire la génétique. La deuxième composante, ce qui montre, c'est des relations fortes entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud-Ouest. Et je vais y revenir après, ça pourrait mettre en lumière, grâce à la génétique, les liens entre les populations à langue clique de l'Asie de l'Afrique de l'Est, les Hadza et les Sandawe, et les Khoisan, anciennement appelés les Bushmen, d'Afrique du Sud, qui parlent des langues clique ici et ici. La troisième composante principale, qui explique un peu moins de la diversité, mais quand même explique une partie de la diversité, nous pointe tout en Afrique centrale. Et on va voir après que ça, c'est le lieu où habitent les pygmées ou chasseurs-cueilleurs de la forêt. Et on va voir ensemble qu'ils ont une diversité génétique assez intéressante. Et pour en finir, j'aimerais qu'on comprenne très bien ça, parce qu'on va le voir beaucoup. Ça, c'est ce que s'appelle des analyses de structure des populations ou des analyses de métissage des populations. Et en gros, comment ça marche? Ça marche d'une façon non supervisée. Ça veut dire quoi? Vous avez, on va imaginer qu'ici, il y a environ 300 individus, chaque ligne étant un individu. Hein. J'y reviens après à ça. On a 300 individus d'une dizaine de populations. Et ce qu'on dit à l'algorithme, au programme d'analyse, c'est « Fais-moi deux groupes génétiques ici. » Mais on ne dit pas au programme qui est qui. On donne juste les 200 individus. On ne les labelle pas, on ne les étiquette pas. On ne dit pas « lui c'est un pygmée, et lui c'est un européen, ou lui c'est un asiatique. » Et on dit au programme « Trouve-moi deux clusters génétiques qui expliquent tout. » Ou trois, ou quatre. En l'occurrence, ici, on a dit au programme, quelle que soit la population, trouve-moi cinq groupes génétiques qui expliquent la plupart de la diversité génétique de ces populations. Bon, il fait ça, le programme, et après, c'est vous-même qui étiquetez qui est qui. Et souvent, qu'est-ce qu'on voit? Que ça correspond pas mal aux populations. Ici, ce sont que des populations du Pakistan. Et on voit que la plupart des populations du Pakistan sont assez métissées, parce qu'il y a pas mal de différentes couleurs. Différentes couleurs veut dire différentes structures génétiques. Mais après, on a les Kalash, qui appartient à un regroupement génétique complètement différent, ou les Hunza Burusho, que c'est ceux qui habitent dans le nord du Pakistan, dans les territoires avant gérés par l'Aga Khan, dans la vallée de Hunza, qui appartient à une religion que c'est les Ismaélites, et vous voyez qu'ils sont complètement différents aux autres. Comment ça marche, ça? Prenons l'exemple des Uyghurs, je ne sais pas le prononcer, Uyghurs, voilà. Donc, ici, il y a 10 individus, et pour que vous compreniez comment ça marche, on va prendre le premier individu, et vous voyez que le premier individu, c'est un individu extrêmement métissé, parce que à différentes proportions, on trouve toutes les structures génétiques dans le même individu. Et si on appliquait ça au monde entier? On peut l'appliquer. Ici, c'est environ 1100 individus de 52 populations différentes de partout la planète. À nouveau, c'est ce qu'on appelle le panel HGDP d'UCEF, Fondation Jean Doucet. Et on dit au programme, fais deux structures génétiques. Il en fait deux. Et plus ou moins, ça correspond à l'Afrique et ce qui est proche d'Afrique, mais à différents niveaux. Le programme ne réussit pas à distinguer bien les choses. Après, on va voir la façon de les distinguer mieux. Et on voit qu'ici, il y a l'Asie, l'Océanie, les Amériques. Après, on lui dit, fais trois groupes. Et à ce moment-là, il distingue mieux. Afrique, l'Europe et l'Afrique du Nord, et un peu de l'Asie centrale, et toute l'Asie. Et ainsi de suite. Après, si on dit quatre groupes, il différencie l'Asie en deux, l'Asie continentale et l'Océanie. Mais ça ne veut pas dire qu'il fait bien les choses. Après, il y a une façon de dire quel est le nombre de groupes, de cas, qu'on dit, qui a moins d'erreurs. Et ce qui dit le programme, c'est ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là. C'est celui-là. K égale 6. Et là, c'est simplement que vous voyez que ça correspond parfaitement aux grandes populations humaines. En violet, les natifs américains. En bleu foncé, Pacifique. En orange, la plupart des populations de l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est. En bleu, mais là, on voit qu'il y a beaucoup de métissage, les populations du Pakistan et du Moyen-Orient, que vous voyez qu'elles n'appartiennent pas à une seule couleur, sont un peu entre les deux. Les Européens en vert et les Africains en rouge. Enfin, ce qu'on peut faire aussi, c'est dater la séparation des populations. Ici, c'est un exemple très simple. On a deux populations, la population 1 et la population 2, et on compare les séquences de cette population et de celle-là. Et on va voir qu'ils diffèrent environ de 10% ces séquences-là. Et si on sait le taux de mutation, par exemple, on sait que tous les millions d'années, il y a 2% de différence, c'est très facile. On dit, donc ça veut dire que ces deux populations ont commencé à diverger, T, il y a 5 millions d'années. C'est un exemple hyper facile, celui-là. Mais la vie n'est jamais comme ça. Parce que cet exemple a beaucoup, fait beaucoup, beaucoup d'hypothèses. Comme hypothèse, il fait qu'il n'y a pas de migration entre les populations. Faux. Il fait l'hypothèse que les populations n'ont jamais changé en taille. Vous voyez que les branches se tiennent constantes. Ça, c'est le temps, toujours, le passé et le présent. Un arbre beaucoup plus réaliste est celui-là. C'est-à-dire, notre ancêtre à nous tous est là. Cet ancêtre, à un certain moment, il est en Afrique, mais il sort d'Afrique. Il y a une grande réduction de la taille, comme on avait vu la semaine dernière, la sortie de l'Afrique, le premier grand goulot d'étranglement de l'homme. Mais après, il y a une expansion géographique en Europe et en Asie. Ces populations continuent à échanger des migrants entre elles. Et pour encore compliquer les choses, on sait aujourd'hui qu'il y a une population archaïque qui vient d'ici, que ça peut être Néandertal ou Denisova, comme on a vu aussi la semaine dernière, qui va injecter de la diversité génétique par ici. Alors, c'est beaucoup plus difficile calculer les temps de divergence entre populations, la taille des populations au cours du temps, mais on peut le faire quand même. Et c'est ce qu'on fait à partir de deux grands types d'approches, excusez-moi, soit des approches basées sur la coalescence, soit des approches basées sur les équations de diffusion. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. L'année prochaine, probablement, on va avoir des séminaires pour ceux qui leur intéressent exactement les parties méthodologiques. Mais juste laissez-moi vous donner un exemple de comment on fait la coalescence d'une façon que je vais essayer que ce soit simple. Si on veut caractériser l'histoire des populations humaines, on fait quoi? La coalescence est basée qu'on va comparer des données simulées, qu'en gros sont des données, comme vous allez voir, inventées, et des données vraies. Comment on fait? Nous, on veut savoir, on va le faire beaucoup plus simple. Normalement, on peut avoir 10-12 modèles démographiques qu'on veut tester. Mais ici, on veut tester juste deux modèles, parce que sinon c'est très difficile à expliquer. Un modèle où la population africaine est là et les ancêtres à nous se séparent en temps T de la population africaine et après, cette population qui sort d'Afrique se sépare en temps T pour donner les Européens et les Asiatiques. Il y a un peu de migration entre tous. Et l'autre exemple, c'est le même, sauf qu'on va ajouter beaucoup d'une expansion démographique très forte dans les dernières 10 000 ans de l'histoire africaine et on va enlever, dans la partie récente de notre histoire, des migrations entre l'Afrique et l'Europe. Quel des deux est vrai? Imaginons que c'est ça qu'on veut faire. Donc on va simuler des données à l'ordinateur, on va créer des fausses séquences qui miment nos génomes, ça c'est facile à faire, et on va dire... Fais-moi ce modèle démographique avec toutes ces séquences que je veux te donner ou fais-moi ce modèle démographique avec toutes les séquences qu'on va mettre dans l'ordinateur, qui ne correspondent pas ces séquences aux séquences qu'on va séquencer dans les vrais individus après. Et on résume ces analyses-là avec des statistiques. C'est ce que s'appelle des statistiques résumées, comme les effets Stair. On prend l'exemple des effets Stair. On fait ce modèle inventé, on simule des génomes, et on résume à la fin tout ça avec des effets Stair, c'est-à-dire avec des distances entre populations qui résultent de ce modèle. De même, avec ce modèle va donner à la fin des statistiques simulées, c'est-à-dire des statistiques qui résument ce modèle. On est là. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des Africains, des Européens, des Asiatiques, on va les séquencer, et on va calculer les effets Stair, c'est-à-dire les mêmes statistiques qu'on a calculées ici à partir de données inventées. Et on va dire, on va comparer les effets Stair qui viennent des données de séquençage réel et les effets Stair qui viennent des données simulées. Et on va choisir le modèle, en l'occurrence le modèle B, qui montre les moins de différences, c'est-à-dire celui dont les statistiques simulées sont plus proches aux statistiques réelles,
C'est ce qu'on appelle le best fit model. J'ai même demandé à mon laboratoire comment on disait best fit model en français. Tout le monde m'a dit best fit model. Donc, j'imagine que j'ai essayé quand même de le traduire. Modèle qui s'ajuste le mien aux vraies données. Et comme ça, on peut dire, vous allez voir des exemples, qu'on peut raffiner beaucoup l'histoire démographique de notre espèce. Alors, allons aux origines. Une fois on a vu toute cette méthodologie qu'on va utiliser pour comprendre les origines, migration et histoire démographique de notre espèce, allons à l'histoire de notre espèce. D'abord, rappelons-nous nos relations avec d'autres primates. Et une question de nomenclature importante, parce que quand j'écrivais ma leçon inaugurale, évidemment, j'ai fait lire à une dame qui est française, et que, bon, moi je suis français aussi, mais en gros, qui écrit bien le français. Et elle me corrigeait toujours, hominine. Quand j'écrivais dans ma leçon, je disais, les néandertaliens et les humains sont des hominines, et chaque fois elle me mettait hominidés. Mais pour une fois, j'avais raison. Ce sont des hominines. Donc, clarifions ça. Humains, chimpanzés, gorilles, orang-outans et gibbons sont des hominoïdes, tout ça. Les hominides, c'est tout le monde, sauf, c'est-à-dire sont les grands singes, plus nous. Mais si on parle que de nous, des humains, nous sommes des hominines. La famille des hominines sont les humains, c'est-à-dire le genre Homo, Erectus, Habilis, plus les Australopithèques. Donc, Lucie et nous, Lucie étant un Australopithèque, on est des hominines. Ici, vous pouvez voir, le squelette de Lucie est une reconstruction. On a vu aussi rapidement, je ne veux pas vous le rappeler, les temps de séparation de nous et les autres primates, en sachant qu'on s'est séparé des chimpanzés il y a environ 5 millions d'années. Mais regardons les différences de séquences maintenant. Parce que c'est là, il faut commencer par les autres primates, parce que là, on trouve nos origines. Ici, vous voyez la différence de 2 à 2 entre homme-chimpanzé, homme-gorille, chimpanzé-gorille, etc., etc. On peut voir que ça varie, les différences entre nos génomes, dépendant de la région qu'on regarde. Si on regarde, par exemple, les gènes, vous voyez qu'on a beaucoup moins de différences avec les chimpanzés que si on regarde les régions non codantes, par exemple. Pourquoi ? Parce que les gènes, c'est-à-dire si on regarde les régions de notre génome qui ne codent pas des gènes et donc des protéines, nos génomes diffèrent d'environ 1,24%. Mais si on regarde nos gènes, c'est beaucoup moins. Parce qu'en général, les gènes sont plus conservés, comme je vous expliquais, à cause de la sélection purifiante, qui ne permet pas autant d'accumuler de la diversité. Notre génome sont différents du gorille, évidemment, un peu plus, parce que ça fait plus longtemps qu'on a divergé. Mais même au sein d'une comparaison entre deux espèces, ça, c'est pour tous nos chromosomes. Les différences entre hommes et chimpanzés, vous pouvez voir que ce n'est pas exactement la même dépendant du chromosome et qu'on voit beaucoup plus de différences quand on va au chromosome sexuel. Le chromosome X montre beaucoup moins de différences que le reste du génome, tandis que le chromosome Y est plus différent entre nous et les chimpanzés que le reste de nos génomes respectifs. Ce que c'est intéressant à voir aussi, c'est que la diversité génétique au sein des autres espèces de primates, chimpanzés, bonobos, gorilles ou orang-outans, est bien supérieure à celle de l'homme, malgré que leur habitat géographique est très restreint, comme vous pouvez voir. Les chimpanzés et les bonobos, on ne les trouve qu'en Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. De même, encore moins pour les gorilles. Et les orang-outans, on les trouve dans les îles de l'Indonésie. On avait vu que le fait qu'ils soient beaucoup plus divers que nous, c'est parce que nous sommes simplement une espèce récente. Et c'est une autre façon de voir qui complète ce que je vous avais dit la semaine dernière. La semaine dernière, on avait vu, et on s'était assez arrêté sur la terminologie de qu'est-ce qu'est l'effectif efficace, la taille efficace d'une population. On avait vu que la taille efficace d'une population, c'est simplement la quantité de gens qui contribuent à la génération suivante, c'est-à-dire ceux qui se reproduisent, qui ne correspond pas nécessairement à la taille de recensement. Regardons ici. Nous savons que les humains, notre taille de recensement est de 7 milliards d'individus. Tandis qu'on sait, et on a vu la semaine dernière, que notre taille efficace de population est de 10 000. Ça veut dire qu'on est, nous tous dérivons de 10 000, en théorie, individus comme perpétuels leur patrimoine génétique, parce que beaucoup de lignes se sont perdues. Tandis que si on voit par exemple les chimpanzés, ils ont une taille, les chimpanzés de l'Est par exemple, ils ont une taille efficace de 20 000, donc beaucoup plus de diversité génétique que nous, le double, mais leur taille de recensement, c'est juste environ 250 000 individus dans le monde. Pour ne pas parler par exemple des orang-outans qui sont. Leur taille efficace, ceux de Sumatra, est de 17 000, tandis que leur taille vraie, dans la vraie vie de la population, c'est que 7 000 individus. Mais tout ça, pourquoi nous intéresse? Parce qu'au fond, ce qui nous intéresse, c'est savoir qu'est-ce qui nous distingue à nous des autres primates. Alors, on peut comparer nos génomes déjà. Et ce qu'on a vu, c'est que ici, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a 53 nouveaux gènes que nous avons par rapport aux autres primates. Et ce qu'on peut voir, que ces 53 nouveaux gènes qu'on a gagnés sont principalement exprimés dans le cerveau et dans les testicules. Ça ne s'agit pas que des nouveaux gènes, mais vous savez que les gènes peuvent être un différent nombre de copies. Un exemple classique, c'est par exemple le gène de l'amylase. L'amylase, c'est une enzyme qu'on produit dans la salive qui nous permet de commencer bien à digérer l'amidon, par exemple. Et chez l'homme, le gène de l'amylase, on le verra d'ailleurs la semaine prochaine quand on va parler d'adaptation à l'environnement, qui comprend adaptation à la nourriture, ce gène de l'amylase est polymorphe entre nous. Pas tout le monde a le même nombre de copies. Il y a des gens qui ont 2 copies, 3 copies, 4 copies, 8 copies. Et ça fait qu'on a plus ou moins d'enzymes à la fin. Donc ici, vous avez un exemple des gènes qui montrent en différentes couleurs, on voit les différentes populations humaines, et l'important, c'est comparer les couleurs avec ceux que sont en noir et gris, que sont, prenons ici l'exemple de ce gène-là, NAIP, vous voyez ici que ce soit l'orang-outan, le chimpanzé ou le gorille, ils n'ont que 2 copies de ce gène. C'est un gène, d'ailleurs, impliqué dans l'immunité innée. Tandis que les populations humaines, ils ont entre 6 et 8 copies. Donc, on a vu aussi qu'il y a des expansions de copies de gènes qui impliquent des fonctions associées souvent au développement du cerveau, à l'immunité et à la reproduction. Donc, ce seraient ces grandes fonctions qui nous distingueraient le plus des primates les plus proches à nous. Donc, on arrive finalement à notre genre, le genre Homo. Ici, c'est une représentation de tous les hominidés qu'on trouve. Le premier, ce qu'on sait, ici vous avez le temps en millions d'années, et on sait que le premier hominidé qu'on a trouvé, c'est en Afrique. Tous sont en Afrique. En bleu, ça veut dire ceux qu'on a trouvés en Afrique, que en Afrique. Et en gris, sont ceux qu'on a trouvés en Afrique et ailleurs, ou seulement ailleurs. Et ce qu'on peut voir, que toute une première partie de notre histoire, bien avant l'apparition du genre Homo, c'est toujours africaine, avec Toumaï, que c'est un Sahelanthropus tchadensis. Après, on arrive aux différents australopithèques ici, le plus connu étant Lucie, que vous connaissez tous. Et après, finalement, on arrive ici au genre Homo. Ici, vous allez vous dire, et il est où Homo habilis? le premier au Mans, c'est ici. Mais il y a eu plein de controverses et les gens n'arrivent pas à se décider si c'est Homo habilis ou Australopithecus habilis. Et donc j'ai demandé vraiment, parce que ça change vraiment tous les 2-3 ans, à Jean-Jacques Hublin, que certains de vous connaissent, dans des cours aussi au Collège de France, il m'a dit c'est Homo habilis. Donc le premier Homo était toujours en Afrique. Et on voit que le premier humain, on va appeler, qui sort d'Afrique, c'est Homo erectus. Et après, vous voyez ici Homo néandertalien, les Homo sapiens, on trouve ici, et l'homme de Flores, que, comme vous savez, a été trouvé dans une île en Indonésie. Au début, c'était extrêmement surprenant, parce qu'on disait les premières datations le dataient de 12 000 ans. C'est un homme qui doit faire 1m30, 1m50, 1m30 de grand. Il y avait certaines personnes qui pensaient qu'il y avait un problème de nanisme. Et finalement, non, probablement c'est un nanisme insulaire. Et les dernières datations de l'homme de Flores, c'est bien loin de 12 000 ans. C'est entre 60 000 et 100 000 ans. Donc voici ici les restes fossiles de différents types d'humains. Les plus anciens Homo erectus, on les trouve en vert, ici. Ça, c'est une fois qu'on trouve des humains hors d'Afrique. Homo erectus, entre 1,9 million et 1,6 million, on le trouve évidemment en Afrique. Un des plus connus, c'est l'Homo erectus du lac Turkana, mais on trouve aussi en Asie de l'Est et en Indonésie. Après, en bleu, vous avez des spécimens. Entre il y a 800 000 ans, il y a encore, il se pensait ici, 12 000 ans, parce que ça fait référence à l'homme de Flores, donc oubliez les 12 000 ans, je viens de vous donner les datations les plus récentes, mais tout ce que c'est en bleu, c'est tous ceux qui n'est pas Homo sapiens. Plein de Néandertaliens ici en Europe, l'homme de Denisova ici, l'homme de Flores ici. Et en rouge, finalement, vous avez les plus vieux Homo sapiens qu'on a trouvés dans la planète. Un des plus connus, c'est lui, Homo, c'est le plus vieux en tout cas, trouvé en Éthiopie et que leur datation est de 195 000 ans. Ici, vous avez un aperçu des différentes dates, des différents fossiles d'Homo sapiens qui vont de celui que je viens de vous mentionner, Homo kibish en Éthiopie, 195 000 ans, mais on trouve aussi et très important au Moyen-Orient, en Israël, Kavze School, et ça, on va y revenir, parce que le fait de trouver au Moyen-Orient des Homo sapiens si vieux a donné lieu à cette hypothèse d'une première sortie d'Afrique très ancienne. On va y revenir dans quelques minutes. Et aussi, ce que c'est très intéressant à voir, c'est que l'homme moderne, Homo sapiens, l'homme anatomiquement moderne, il y a 40 000 ans, il était déjà en Australie. Donc cette première sortie, qui en date environ, j'y reviens, environ 60 000 ans, aurait été extrêmement rapide. Quels sont les modèles d'apparition d'Homo sapiens? Bon, il y a deux modèles extrêmement simplistes. La théorie multirégionale, que c'est une théorie qui dit que les différents hommes et femmes d'Asie, Afrique et Europe, tous, on a évolué indépendamment dans nos continents respectifs. Les Africains ont donné des Africains. Nous, certainement pas, on vient des Africains. On vient des anciens Européens. Et les Asiatiques aussi, je blague quand on dit ça. Et l'Out of Africa, c'est le contraire. C'est, évidemment, il y a eu des évolutions, mais les actuelles populations d'Asiatiques et Européens proviennent d'une population africaine qui est sortie récemment de l'Afrique pour remplacer toutes les autres espèces qu'il y avait dans la planète. La réalité n'est pas si simple que ces deux-là, qu'ont dominé la littérature dans les dernières 30-40 ans. Donc il y a des modèles, quatre modèles qui expliquent un peu mieux les nuances. Le premier a eu beaucoup de... Personne ne l'a pris jamais au sérieux, parce que c'était proposé par cette personne-là, Carleton Kuhn, aux années 60. Et ce qu'il disait, avec des énormes connotations racistes, c'est que chacun de nous, évidemment, c'était comme la théorie multirégionale, mais il disait que même si éventuellement Homo erectus, il y a très très longtemps, venait d'Afrique, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait rien, absolument rien d'Africain. Non. Et il insistait beaucoup dans cette théorie en disant, en plus, nous, ceux d'origine européenne, ça fait très longtemps qu'on est Homo sapiens, tandis que les Africains, ça fait très peu de temps que sont devenus Homo sapiens. Évidemment, cette théorie, je tenais à la mentionner parce qu'elle existait à l'époque, jamais personne ne l'a prise au sérieux. Et il y a eu deux théories qui ont été très longtemps, qui sont très réalistes d'ailleurs les deux. C'était la théorie multirégionale, que c'est en gros la même que lui, mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup de brassage génétique entre populations. Là, c'était sérieux. Milford Wolpoff, ce qu'il disait, les Européens, les Asiatiques et les Africains ont évolué chaque population à partir des populations locales de leur continent, mais on s'est beaucoup mélangé après. Après, la théorie du remplacement, connue en anglais souvent, utilisée aussi en français souvent le mot anglais comme l'out of Africa, que c'est qui dit que toutes les populations locales d'Asiatiques, d'Australiens et d'Européens se sont éteintes à un certain moment. En gros, les Homo erectus et leurs dérivés ont disparu et c'est qu'une population d'Afrique qui sort et remplace tout le monde. Et une petite nuance de ça, c'est le modèle d'assimilation qui dit la même chose. En gros, il dit, nous tous provenons d'Afrique, mais malgré tout, quand les Africains arrivent et remplacent tout le monde, il y a eu certains petits mélanges avec des populations locales. Ceux qui suivent mes cours commenceront à se rendre compte que c'est là, cette population, ce modèle-là est le plus réaliste. Et en gros, pour revenir à la blague, parce que c'est une blague, ça, il avait même fait un graphique en disant ce qu'on s'attendait d'africanitude. Et on disait que le modèle candélabre, évidemment, c'était 0% de gènes africains dans nos gènes, tandis que plus vous allez vers le remplacement, plus de gènes africains on a, et la réalité serait environ par ici. Et comment la génétique a aidé à trancher entre tous ces modèles? Donc, comme vous savez, jusqu'à il y a 19 ans, on n'avait pas la séquence du génome humain. Et en plus, je vous ai raconté aussi qu'en 2001, ça coûtait 3 milliards de dollars, séquencer le génome. Aujourd'hui, ça coûte 800 euros. Et si vous le faites, au lieu de le faire en Europe, vous le faites en Corée du Sud, ça vous coûte 300 euros. Mais à l'époque, on n'avait pas les moyens de comprendre la diversité génétique, donc on travaillait, je vous en ai parlé déjà, sur les marqueurs à hérédité monoparentale, c'est-à-dire le premier génome séquencé, on l'a vu, l'ADN mitochondrial, qui est dans nos mitochondries, qui est hérité que par les mères, et le chromosome Y, qui est hérité par les pères. Donc aujourd'hui, ça c'est un individu, c'est un homme, je mets un homme parce que c'est beaucoup plus facile pour représenter le chromosome Y, évidemment, mais imaginez que ça c'est une population aussi. Tandis que tous nos autosomes, ce qu'on appelle le génome, sont toujours un mélange de tous nos ancêtres, l'intérêt, c'est que si on étudie le chromosome, l'ADN mitochondrial, le cercle ici, de nous tous, on peut retracer exactement nos ancêtres maternels, sans le bruit qui introduit, comme je vous ai montré la semaine dernière, la recombinaison à chaque génération. Parce que l'ADN mitochondrial ne recombine pas. Donc, on l'hérite directement sans modification de nos ancêtres maternels, de même que la plupart du chromosome Y. Donc, le premier soutien formel de la part de la génétique de l'origine africaine de nous tous vient en 1987. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Et vient d'un groupe à Stanford. En tout cas, je ne me rappelle plus si c'était Stanford ou Berkeley, en Californie, le groupe d'Alan Wilson, qui montre, ça sont environ 200 individus, un arbre, comme je vous ai montré déjà, que vous pouvez bien interpréter. La longueur des branches, je vous rappelle que c'est proportionnel à la quantité de diversité génétique. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que toutes les populations qui sont là, non africaines, dérivent, trouvent leurs racines dans les populations africaines. Ça, ils l'ont fait en 1987 à partir d'une toute petite séquence de l'ADN mitochondrial. Ça a été revisité des années après, en 2000, si je me rappelle, oui, en 2000, avec des séquences de tout l'ADN mitochondrial, le 16 kilobases, on trouve exactement la même chose. Vous pouvez voir ici que les populations d'origine asiatique et européenne et du Pacifique, en gros, toutes les populations non africaines sont pas seulement moins diverses génétiquement que les Africains, mais trouvent tous leurs racines dans les populations africaines. Quand on sait le taux de mutation de l'ADN mitochondrial, ça a été calculé que notre ancêtre commun aurait existé, en tout cas à partir des données de l'ADN mitochondrial, et j'y reviendrai de suite à ça, il y a environ 170 000 ans, et que l'ancêtre du groupe qui a sorti de l'Afrique a été daté à environ 50 000 ans. Évidemment, je ne vous montre pas les intervalles de confiance qui sont assez élevés. Ça peut aller de 150 à 250 000 ans, et ici de 40 à 80 000 ans. De 40 000, pas de 40, de 40 000 à 80 000 ans. Mais quand on étudie un seul locus, vous savez que c'est très dangereux, déduire l'histoire d'une population sur la base d'un seul morceau de notre ADN. Parce qu'à ce moment-là, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est l'histoire de ce morceau d'ADN, pas l'histoire de nous tous. Donc il faut que d'autres parties de nos génomes nous racontent plus ou moins la même histoire. Le chromosome Y raconte exactement la même histoire. Tous les non-africains trouvent leurs racines dans des populations africaines et l'ancêtre commun, calculé à partir du chromosome Y, avec un taux de mutation complètement différent, nous donne que notre ancêtre commun aurait vécu en Afrique, évidemment, il y a environ 160 000 à 260 000 ans. Aujourd'hui, on utilise de moins en moins le chromosome Y et l'ADN mitochondrial parce qu'on peut avoir une vision beaucoup plus panoramique et beaucoup plus réaliste de notre histoire génétique en utilisant tout notre génome. Comment on fait ça? On fait ça soit avec des puces d'ADN qui nous permettent d'interroger les allèles de 5 millions de SNP. Je vous rappelle que vous, à ce moment-là, vous savez ce que c'est un allèle et un SNP. Un allèle, c'est les deux mêmes versions d'une mutation. Une mutation peut être, je vous le rappelle, CT. Ça, c'est un SNP, en l'occurrence aussi. Et il y a l'allèle C et l'allèle T. Donc ça, ces gens de machines nous disent, pour environ 200 euros, votre état de chacun de vous à 5 millions de SNP. On peut faire encore mieux, on peut séquencer tout le génome. Ce qui coûte environ, comme je vous disais, 800 euros, si on veut le faire bien. À niveau des autosomes, donc en utilisant environ cette étude, environ 600 000 SNP, on a refait l'histoire de l'homme, et en gros, c'est une copie exacte de tout ce qu'on trouve avec l'ADN mitochondrial et le chromosome Y, origine africaine de toutes les populations hors d'Afrique. Et ça, c'est à nouveau une analyse de structure que vous savez interpréter, et on trouve plus ou moins la même chose, 5-6 grands groupes génétiques qui plus ou moins correspondent à différents continents avec des grands niveaux de métissage, et on y reviendra tout à l'heure. On peut encore aller plus loin et séquencer tout le génome. Et ça, c'est une étude qui a été faite sur 300 individus de toutes les différentes populations du monde. Et toujours, on retombe sur la même chose. C'est la dernière fois que je vais vous montrer ça, mais je voulais juste vous montrer qu'il n'y a aucun doute de les populations africaines sont les plus diverses. Vous pouvez le voir ici aussi, un nombre de SNP, par exemple, 10 millions versus 7 millions en Europe et environ 6 millions en Asie de l'Est. Et ici, une autre mesure de diversité, vous voyez la même chose.
Donc, le consensus très clair aujourd'hui, c'est que l'homme s'est originé en Afrique et une partie de cette diversité, une partie de ces couleurs-là, sort d'Afrique, des jaunes et des bleus, et s'installe hors de l'Afrique. On peut faire aussi des analyses, des modèles démographiques beaucoup plus précis, et on va voir le modèle qui explique le mieux dans ce cours l'histoire démographique de l'homme. Mais une question qu'on s'est posée depuis très longtemps, c'est on sait que l'homme est sorti de l'Afrique, mais comment, par où et quand? Les généticiens, et sur la base les généticiens et les archéologues, n'étaient pas très clairs sur combien de sorties. Mais en gros, il y avait deux sorties postulées. Une sortie via le nord, par le Sinaï, sur la base de ces premiers hommes modernes en Israël qui datent de 90-110 000 ans. Mais après, il n'y a rien dans le répertoire fossile. En Eurasie, il n'y a plus rien. Jusqu'à il y a environ 60 000 ans. Ce qui a donné lieu, il y a la vraie sortie d'Afrique. La sortie d'Afrique qui a eu du succès, c'est une sortie qui aurait commencé il y a 60 000 ans. Et ça avait été postulé que ça c'était une sortie par l'Afrique de l'Est, une sortie côtière. Mais maintenant on sait, et ça complique les choses, que tous les Eurasiens, on a 2-3% de notre génome qui provient de Néandertal. Alors qu'est-ce que s'est passé? Où l'homme a quitté l'Afrique il y a environ 60 000 ans par les côtes du sud, mais tout de suite après, ici, il se métisse, l'étoile ici c'est du Néandertal, se métisse avec Néandertal, raison pour laquelle tous les Européens et Asiatiques d'aujourd'hui sont métissés, que c'est l'observation empirique, où l'homme sort par le nord et c'est ici qu'il trouve Néandertal, se métisse, et c'est pour la même raison qu'on est tous, on a tous un peu de Néandertalien, où l'homme sort par le nord, trouve du Néandertal, se métisse ici avec Néandertal, mais on sait que cette sortie n'a pas eu beaucoup de succès. Donc, l'homme revient en Afrique, mais déjà un peu métissé, avec des Néandertal, et après il sort par l'Afrique du Sud. Mais on sait aujourd'hui, on sait calculer, et je ne veux pas rentrer dans les détails, sur la base de la longueur des haplotypes, je vous ai montré ce que sont les haplotypes, quand deux populations se sont métissées. Et on sait que Néandertal et Homo sapiens se sont métissés il y a environ 30 à 80 000 ans, plus probablement 40 à 50 000. Donc cette hypothèse ne tient pas. Donc on a continué à s'intéresser à ça parce qu'il y a tout ce bruit de notre relation et nos métissages avec d'autres formes archaïques, dites archaïques en tout cas. On sait, on a des évidences plus en plus importantes que les Africains aussi, eux, se sont métissés avec une forme archaïque qu'on n'a pas encore trouvée d'un point de vue de l'archéologie ou de la paléanthropologie. On sait que nous sommes mélangés, nous. Ceux d'origine européenne se sont mélangés avec les Néandertaliens et qu'ici, il y a eu du métissage, surtout beaucoup ici, avec l'homme de Denisova. Dans les données génétiques, d'ailleurs, un de mes premiers travaux, qui date d'exactement il y a 20 ans, c'était un travail qui montrait, qui soutenait, d'un point de vue génétique, que cette sortie par le nord n'a pas eu de succès, que c'était plutôt une expansion de ce qu'on appelait la faune africaine. L'homme qui a dit que ça, ce n'est pas l'Afrique. C'est les géographes qui disent que ça s'appelle l'Afrique et que ça s'arrête ici. Mais les hommes ne comprenaient rien de la géographie. Pour eux, c'est la même chose. Donc, en gros, ça peut être l'Afrique aussi. Mais qui n'a pas eu de succès et que les vraies migrations qui ont eu de succès après seraient commencées en Afrique de l'Est et auraient sorti il y a 60 000 ans pour très vite coloniser l'Asie du Sud et le Pacifique. Depuis, il y a eu plein d'autres travaux à niveau des séquences complètes de l'ADN mitochondrial, des séquences complètes du chromosome Y, qui soutient plutôt ce consensus d'une sortie d'Afrique il y a environ 60 000 ans, suivant les côtes de l'Asie du Sud. Donc si on remet ça dans le contexte de ce qu'on a vu avant, l'homme aurait quitté l'Afrique il y a environ 60 000 ans par la voie sud,
se serait mélangé quelque part dans la péninsule arabique avec Néandertal pour après se scinder en deux grands groupes, ceux qui partent vers l'Europe et ceux qui partent très vite vers le sud de l'Asie et qui en plus rencontrent ici l'homme de Denisova avec qui se métissent. On sait aujourd'hui aussi que notre espèce est très structurée d'un point de vue génétique. Ça veut dire, même s'il y a très peu de différences génétiques entre nous ou entre populations, à partir d'aujourd'hui, et pour le reste de mes cours, et c'est pour ça que les généticiens en ont le travail, je vais me concentrer que sur le 0,1% qu'en moyen distingue chacun de nos génomes. C'est quand même 3 millions de différences, parce que c'est le 0,1% de 3 milliards que c'est notre génome. Et c'est grâce à ça qu'on a le travail en génétique. Donc, si on prend cette partie-là, on a vu la semaine dernière que plus on s'éloigne de l'Afrique de l'Est, plus on perd de diversité. Ça s'appelle l'isolement par la distance. On l'a vu déjà. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que même si on se concentre dans des régions du monde très restreintes, très petites géographiquement, on peut trouver de la structure génétique des populations. Ici, comme vous voyez, c'est l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. On réussit parfaitement à distinguer les individus et les populations. Et ça, c'est encore pire. Ces trois îles au nord de l'Écosse, les îles Orcades, je pense que ça s'appelle en français Orcades, non ? Et que vous voyez qu'ici sont simplement en couleur différente pour que vous sachiez l'origine de ces trois populations. Et ici sont projetés sur une analyse que je viens de montrer en deux dimensions de composants principales. Vous pouvez parfaitement distinguer les trois populations d'un point de vue génétique. Mis à part les études de structure, des intérêts par la génétique des populations, ça a une importance majeure. On ne va pas rentrer dans les détails, dans la génétique médicale. Parce que quand vous faites des études d'association, qu'est-ce que ça veut dire ? Que vous avez une population de personnes saines et une population d'individus malades de tuberculose, par exemple. Et vous voulez comprendre quels sont les facteurs génétiques qui font que cette population développe la tuberculose et pas celle-ci. Vous allez comparer la population A avec la population B. Et si la population A n'est pas bien alignée d'un point de vue génétique, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle « matché », on utilise le mot anglais, ça veut dire, en gros, ça veut dire que quand vous faites des études d'association génétique en génétique médicale, il faut que vous comparez deux populations qui ne sont pas structurées entre elles. Exemple, si vous comparez cette population-là avec cette population-là, et où vous voulez comparer, par exemple, cette population-là avec cette population-là, ici, la population de cas et la population de contrôle est bien alignée, c'est-à-dire qu'à la base, ne sont pas différents. Mais si vous voulez comparer, imaginez que tous ceux-là sont les individus sains et tous ceux-là sont les individus malades, vous trouverez une fausse association. Parce que simplement, vos individus sains sont plus de cette île-là et vos individus malades sont plus de ces îles-là. Et la seule chose que vous êtes en train de mettre en évidence, c'est aucune relation avec la tuberculose, mais juste la structure génétique de ce qu'on appelle votre cohorte d'études. Donc, là, il me reste une demi-heure pour raconter des choses qui ont pris 60 000 ans à notre minute, à l'humanité. Et on commence par l'histoire de l'Afrique. Donc, l'Afrique est un continent qui présente une variabilité, une diversité extrêmement élevée. D'abord, à niveau environnemental, on va du bassin du Congo et tout ce que c'est la forêt équatoriale, à la zone du Sahel, le désert du Sahara, l'altiplano, ça s'appelle pas l'altiplano, mais en gros, les hauteurs de l'Éthiopie et le désert au sud du Kalahari. On trouve aussi une très grande diversité linguistique, comme vous pouvez voir ici, avec des grandes familles linguistiques, tous représentées en Afrique, y compris la famille la plus importante, que j'y reviendrai, que c'est la famille du Niger-Congo, que c'est tout ça qui inclut les différentes langues bantoues. L'Afrique aussi présente une diversité culturelle et de modes de vie très différents. Pourquoi ? Parce qu'on a des populations d'agriculteurs en Afrique. L'agriculture, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, s'est originée probablement dans cette région-là, entre ceux qui seraient aujourd'hui le Nigeria et le Cameroun. Et dans les dernières 3000 ans, l'agriculture s'est imposée dans toute l'Afrique subsaharienne en remplaçant les populations de chasseurs-cueilleurs qu'il y avait avant. L'agriculture s'est déplacée aussi dans l'Afrique subsaharienne avec les langues bantoues. Mais en Afrique, malgré tout, il y a des peuples de chasseurs-cueilleurs qui ont survécu ce qu'on appelle les expansions bantoues. Et ces peuples, c'est les peuples de Pygmées que vous voyez ici, les Pygmées de l'Ouest, les Pygmées de l'Est. On voit les peuples d'Asie de l'Est, les Hadza et les Sandaoué, des populations de langue à clic, et toutes les populations de Khoisan en Afrique du Sud et en Namibie, qui sont toujours des chasseurs-cueilleurs. Enfin, l'Afrique aussi montre une diversité phénotypique assez importante. Vous voyez ici, tout ça sont des populations à langue clic, les Khoisan d'Afrique du Sud, les Sandaoué et les Hadza d'Afrique de l'Est, les Pygmées de l'Afrique centrale et simplement des peuples bantous, 350 millions de locuteurs aujourd'hui dans toute l'Afrique subsaharienne. Ici sont des bantous du Mozambique. Un des premiers grandes études à grande échelle de toute l'Afrique a été fait par une chercheuse, que c'est une déesse de l'étude de l'Afrique, Sarah Tishkoff, dans l'université de Pennsylvanie, où vous pouvez déjà voir un grand niveau de diversité génétique, même au sein de l'Afrique. Ce qu'on peut voir, ce qu'elle a vu, ça c'est sur la base d'environ 300... ça c'est sur la base des microsatellites, je vous avais montré la semaine dernière ce qu'ils sont. Elle a identifié que au sein de l'Afrique, on trouve déjà 14 regroupements génétiques différents. Mais comme vous pouvez voir, il n'y a presque aucune population qui appartient à un seul cluster génétique, qu'il y a un niveau de métissage extrêmement important. Je tiens à vous montrer que ce que probablement on voit comme cluster génétique le plus présent, c'est ce cluster-là, ici en orange, que je vous dis déjà, qui correspond à l'expansion bantou en Afrique. J'y reviens. Sur la base de quelques millions de SNP dans le génome, ce groupe suédois, Mathias Jakobson, ils ont pu, avec des modèles démographiques extrêmement raffinés, dater le temps de divergence des grandes populations africaines. Et la chose la plus importante que je voudrais que vous fassiez attention de ce schéma, c'est que la première division de l'histoire de notre espèce, c'est déjà en Afrique même. Et c'est entre les Khoisan et ce qui a donné lieu au reste des populations africaines ici. Et c'est déjà il y a plus de 200 000 ans. Donc à peine l'homme commence à devenir homo sapiens, il commence déjà à avoir une structuration, une division de population. La suivante implique les Pygmées, que vous voyez ici, par rapport aux autres populations africaines, il y a environ 180 000 ans. La dernière étude, qui date de l'année dernière, c'est toujours Sarah Tishkoff, sont des séquences complètes, tout le génome de toutes ces populations-là africaines, que vous pouvez voir ici. Une chose importante à relever ici, c'est juste que quelle que soit la localisation géographique des vers, des cercles verts, que sont des populations bantoues, qui peut être à des milliers de distances les unes des autres aujourd'hui, d'un point de vue génétique, sont très proches. Ce qui montre et ce qui soutient que les expansions bantoues qui ont imposé l'agriculture dans tout le continent ont été des vraies migrations d'individus qui sont commencées il y a 3000 ans et non pas d'une acculturation des populations de chasseurs-cueilleurs comme beaucoup de chercheurs prétendaient. Donc il y a eu un vrai, ce qu'on appelle un mouvement démique un mouvement des populations. Ce qui est confirmé par plein d'autres études génétiques qui montrent que la classification linguistique, ici vous voyez en marron à peu près toutes les langues bantoues, correspond à peu près à un cluster génétique, un regroupement génétique actuel en Afrique. Ce qui se confirme aussi par l'étude de l'ADN mitochondrial et le chromosome Y. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des lignées de chromosome Y et plusieurs lignées de l'ADN mitochondrial que je mets ici avec des flèches, que sont des marqueurs précis de l'expansion bantou à partir de 3000 ans vers toute l'Afrique subsaharienne. Dans ce cadre, un chercheur très brillant de mon laboratoire, que j'avais mentionné déjà lors de ma conférence, Étienne Patin, s'est posé la question de... Il y avait, dans l'étude de l'Afrique, deux grandes théories de comment les expansions bantoues se sont faites. Ce que s'appelle une séparation précoce, que c'est à peine les expansions bantoues avec l'agriculture commencent, il y a déjà une migration qui passe par le nord de la forêt pour arriver en Afrique de l'Est, et après descendre, et une autre population qui va partir vers le sud. Tandis qu'il y a l'hypothèse de la séparation tardive qui dit que non, d'abord les agriculteurs se sont originés, bon, en tout cas les expansions bantoues se sont originées ici, ont traversé la forêt, ont interagi pas mal avec les populations locales des chasseurs-cueilleurs pygmées pour ensuite aller vers l'est et vers le sud. Donc en étudiant environ 2000 individus de 50 populations différentes de l'Afrique, vous connaissez déjà une analyse de structure. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que la composante rouge, c'est la composante essentiellement bantoue. Les bantous de l'ouest sont ici, les bantous de l'est sont ici, et les bantous du sud sont ici. Donc, ils sont tous rouges. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que les bantous de l'ouest, ils ont du vert aussi. Et c'est quoi le vert ? Ici, c'est le pygmée. Le jaune, le rose qu'ils ont, les bantous de l'Est, c'est les peuples pastoralistes de l'Afrique de l'Est. Donc, la première chose qu'on a montrée, c'est que lors des migrations bantoues, eux se sont déjà métissés avec les populations locales qu'ils ont rencontrées. Et ensuite, avec des analyses assez compliquées que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, ce que Étienne a pu montrer, et il a soutenu le modèle d'une séparation tardive, c'est-à-dire que d'abord les bantous traversent la forêt équatoriale pour après se diriger vers l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Aussi, au cours des dernières 15 ans, on a beaucoup étudié cette relation entre les peuples bantous de l'Afrique centrale et leur relation avec les peuples pygmées. Et ce qu'on a pu faire, c'est proposer un modèle démographique comme ceux que je vous ai montrés au début, qu'on peut étudier le temps de séparation, le changement de taille de population, des goulots d'étranglement. Ce qu'on a montré, c'est que ces deux populations se sont séparées il y a déjà très longtemps, environ 130 000 ans au moins, que les populations de pygmées sont passées par des goulots d'étranglement extrêmement forts et que dans les dernières 3 000 ans, se sont extrêmement subdivisées, qui coïncide exactement au moment que les populations bantoues rentrent dans la forêt, donc quelque part l'arrivée des peuples fermiers et aussi la déforestation pour faire de l'agriculture, c'était le début d'une structuration très forte et un déclin des populations de pygmées. Tandis que les populations d'agriculteurs, dans les dernières 3-4 000 ans, et tout au long de son histoire, en étaient sous forte expansion démographique. Donc, résumé de l'histoire africaine, que j'espère dans les prochaines années, on pourra y dédier des cours entiers, parce que j'ai fait un survol extrêmement simpliste, c'est que la plus grande diversité culturelle, linguistique et génétique de la planète est en Afrique, que la diversité génétique en Afrique est plutôt reliée à la géographie, mais aussi aux classifications linguistiques, l'expansion bantoue, qu'il y a une empreinte génétique forte des expansions bantoues, donc qu'il y a eu des migrations et non pas d'acculturation, et enfin qu'il y a un haut niveau de métissage entre les populations de fermiers et les populations local, pour la plupart chasseurs-cueilleurs, qu'ils ont rencontrés. Le peuplement de l'Europe, ici, ça va être, en 5 minutes, 50 000 années d'histoire. De quoi, quand on commence ici? Mais je vous promets que dans les prochaines années, on fera des cours entiers, un par continent, parce que c'est vraiment injuste d'y dédier juste quelques minutes. L'Europe a été colonisée pendant le Paléolithique, première grande vague de migration, il y a 40-50 000 ans. Après, il y a eu la grande glaciation, et la deuxième vague de migration, c'est juste après l'époque glaciale, il y a 18 000 ans, qu'il y avait plusieurs refuges des populations paléolithiques. Il faisait très froid en Europe. Il y a eu trois grands refuges. Un, au sud de la France, parce que la flèche n'est pas bien mise ici, c'est dans toute cette région-là, la région que c'est le sud-ouest de la France et ce que serait plus ou moins la région basque ici. Un autre refuge, c'est en Italie. Et un autre refuge, c'est dans les Balkans. Et après, il y a eu des expansions de ces populations vers le nord. Et après, l'agriculture arrive. Pendant le néolithique, il y a environ 10 000 ans, à partir du Moyen-Orient. Et c'est là qu'aux années 90, fin des années 80, quand j'ai commencé à travailler en recherche, dans la communauté de génétique de population, il y avait un débat extrêmement houleux entre la diversité génétique des Européens est plutôt paléolithique, ou la diversité génétique européenne est plutôt néolithique. Ça se joue à 60-40, donc c'est quoi qui vaut mieux? Je ne sais pas. Et aussi, souvent on entend dire, et les Basques d'ailleurs représentent un relict de les populations paléolithiques parce qu'ils ne parlent pas des langues indo-européennes que seraient les langues qui auraient été amenées par les fermiers du Moyen-Orient. On va voir un peu maintenant ces dernières 20 ans de recherche. Je vous rappelle la différence entre une acculturation, mais j'imagine que vous la savez, il y a un vrai mouvement des populations. Quand le F, c'est pour fermier, et H, G, pour chasseur-cueilleur. S'il y a un mouvement relié à l'agriculture, ça peut être fait par acculturation, c'est-à-dire il y a les fermiers du Moyen-Orient qui augmente en taille de population, y apprend à un groupe de chasseurs-cueilleurs à faire de l'agriculture, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas un métissage, il n'y a pas un vrai échange génétique, il y a juste un échange culturel. Tandis que dans l'hypothèse qu'on appelle démique, c'est un groupe de fermiers devient plus important en taille, et comme devient plus important en taille, bouge et se mélange avec un groupe de chasseurs-cueilleurs qui donc devient bleu, et ainsi de suite. Donc, dans ces cas-là, comme vous pouvez voir, il y a un vrai échange génétique. Et comment ça s'est passé en Europe, alors, l'arrivée de l'agriculture? Les analyses et les données archéologiques montrent qu'il y a eu, ça c'est sur la base des restes fossiles du blé, de céréales. Vous voyez que les restes plus anciens, 11-12 000 ans, sont en Anatolie, il y a croissant fertile. Et dès qu'on bouge vers l'Europe de l'Ouest, chaque fois, les restes sont plus jeunes. Ce qui montre que ce soit par acculturation ou par mouvement des populations, l'agriculture est arrivée en Europe d'une façon graduelle. Il est arrivé ici environ il y a 7 000 ans, et aux îles britanniques et en Scandinavie, il y a environ 6 000 ans. Mais je vous ai beaucoup parlé déjà de Lukács Wallis-Forza, et lui, sur la base de ce qu'on appelle les marqueurs classiques, on a vu vendredi dernier que c'est les groupes sanguins, des groupes HLA, etc., tous réunis, il montrait qu'il y avait des clines de fréquence. Je vous ai montré déjà aujourd'hui, au début, qu'on peut résumer les analyses en composant principal en clines de fréquence. Ça veut dire quoi? Ce sont des mutations dont leur fréquence décroît proportionnellement sur une carte géographique. Donc ça avait été interprété tout de suite comme, voilà, ça c'est la preuve formelle qu'il y a eu un vrai mouvement de population. C'est vrai, mais personne n'a réussi à dater quand ça pourrait être exactement la rentrée en Europe par l'homme paléolithique. Pas nécessairement l'arrivée des fermiers du Moyen-Orient. Donc, les années passent, on pouvait faire des choses plus détaillées, évidemment, chromosome Y et ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial ne montre pas de gradient particulier en Europe. Pendant longtemps, on a dit que les lignées H et U, c'était les plus dominants, ce qui est vrai. Mais surtout, on disait que la lignée H était d'origine paléolithique, entre autres parce qu'on la trouve à les plus hautes fréquences en Europe de l'Ouest, chez les Basques en particulier. Aujourd'hui, on parle plutôt d'origine néolithique. Et le chromosome Y, on voit qu'effectivement, il y a des forts gradients de fréquence. Vous pouvez le voir ici avec les couleurs. Ce qui soutient le mouvement des populations, mais la chronologie n'est pas claire toujours. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que ici, c'est une étude sur environ 800 000 SNP dans le génome d'environ 3 000 Européens. Et ici, c'est à nouveau non supervisé, c'est-à-dire c'est une analyse en composants principales. Vous voyez le PC1 et le PC2. Et vous voyez que les distances, chaque sigle, c'est un individu. Et vous voyez tout de suite à quoi ça ressemble. C'est-à-dire la génétique ressemble presque à la carte géographique de l'Europe. Ce qu'en Europe soutient parfaitement le principe de l'isolement par la distance. Plus deux individus sont proches géographiquement, plus seront proches génétiquement. Évidemment, il y a des exceptions. Il y a un Grec ici au sud de l'atelier, quelques Italiens qui vont plutôt vers la Tunisie. Ça montre les migrations plus récentes, simplement. Ici aussi, une preuve formelle de la corrélation très bonne entre distance génétique et distance géographique. Structure qu'on peut trouver même à très petite échelle. Ça, c'est un papier de quelques milliers de Britanniques publié en Nature il y a 3-4 ans. Vous pouvez voir qu'en même au sein d'une île où il n'y a pas une immense diversité génétique, vous pouvez voir une structure génétique qui coïncide d'une façon importante avec la géographie, même au sein d'un pays minuscule comme la Suisse, dépendant de si on parle français, si c'est des Suisses allemands ou si c'est des Suisses italiens, chacun se rapproche à la population de Français, d'Allemands et d'Italiens. Parce que c'est quand même assez incroyable à des niveaux si petits et avec une diversité de base pas très importante. On n'est pas en Afrique, là. On est dans des populations qui sont quand même relativement homogènes. Et finalement, depuis des siècles qu'on attendait, on s'intéresse un peu à la France. Et c'est un papier qui est sorti cette année sur l'histoire génomique de la France. Et ce qu'on montre, pour la faire courte, c'est que c'est extrêmement intéressant de montrer deux choses que j'ai retenues de ce papier. C'est que la Loire et la Garonne ont été des barrières importantes pour le flux génique tout au long de l'histoire de la France. Vous pouvez voir que les composants, les clusters génétiques de la population française changent brutalement si on est de ce côté de la Loire, plutôt bleu, et de ce côté de la Loire, plutôt jaune. Et dès qu'on dépasse la Garonne, surtout quand on dépasse ce petit lac qui s'appelle l'Adour, je pense, on rentre là dans la région plus bascophone. On voit aussi un cluster différent ici, qu'il ne faut pas faire la génétique pour savoir où on est. Et ce que c'est intéressant à voir, c'est qu'on a pu diviser la France, l'Europe, en trois grandes couches génétiques. J'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'une couche, je ne vous ai pas parlé, parce que c'est que l'ADN ancien qui a permis de mettre en lumière cette couche qui est super présente chez nous tous. Et la génétique moderne, on ne le savait pas. Mais ici, je dois faire déjà une avancée de quelque chose que je voulais parler plus tard, que c'est, on a trois grands composants génétiques chez tous les Européens. La composante paléolithique, la première qui arrive, qui a laissé peu de traces génétiques, mais malgré tout, environ 15%. La composante qui vient du Moyen-Orient avec les fermiers, c'est la plus représentée chez nous tous, environ 60%. Et après, une nouvelle composante, que quand même, on peut arriver à 40% des Européens qui l'ont, que c'est une composante que c'est que grâce à l'éveil ancien qui a été montré, que c'est des peuples qui viennent des steppes de l'Asie centrale, il y a 5000 ans, vers l'Europe de l'Ouest, et l'Europe centrale en particulier, associée à la culture Yanaya. Et au centre de la France, comment ça a été affecté alors? On voit que la composante paléolithique, même si on parle de très peu, mais plutôt représentée au sud-ouest et dans le nord-ouest, donc en Bretagne en gros, et dans le sud-ouest de la France. La composante néolithique fermière est partout à peu près pareille, 60%, moins en Bretagne. Et la composante des steppes est surtout représentée entre 20 et 40%, mais surtout en Bretagne et dans le nord. On a travaillé aussi sur les Basques, parce que les Basques sont particuliers dans le sens qu'ils appartiennent à ce qu'on appelle un isolat linguistique. Tous les Européens, sauf les Hongrois et les Finnois, et les Basques, parlent des langues indo-européennes. Les Hongrois et les Finnois, au moins, ils parlent une langue qui appartient aux familles linguistiques, la famille finno-grique. Mais la langue basque, c'est ce qu'on appelle un isolat linguistique. Personne n'a réussi à la rattacher à une famille linguistique connue. Ça, plus le fait qu'il y a déjà, on le sait depuis 50-60 ans, montre des fréquences très élevées de groupes sanguins RH négatifs, plus la culture associée et la politique, surtout chez les Basques espagnols, a fait que les Basques ont été un peu surétudiés. Je lisais l'autre jour que disait si les Gascons ou les Galiciens avaient une situation politique comme ça, ils auraient été autant étudiés que les Basques, sauf qu'on n'en connaît rien, ni les Gascons, ni les Galiciens. Donc, ce qu'on, nous, on les a étudiés aussi, en collaboration avec le CNRS et une équipe de linguistes très, très bons de Bayonne. Ils ont échantillé plusieurs populations de groupes bascophones du nord, comme ils appellent là, et du sud, et des populations dans leur entourage que ne sont pas bascophones, aussi bien en France, le Béarn, la Chalosse, etc., et en Espagne actuelle. Et ce qu'on a pu identifier, c'est certaines lignées de l'ADN mitochondrial qu'on trouve principalement ou presque uniquement dans toute la région franco-cantabrienne et surtout chez les populations bascophones. Lignées qu'on a pu dater et pour la plupart datent de la période du Mésolithique. Alors, est-ce qu'ils sont particuliers? Est-ce qu'ils sont différents aux autres? Autant particuliers et autant différents qu'il peut être les Lillois ou les Strasbourgeois. Parce que si on faisait la même étude, on va toujours trouver des choses autochtones de chacune des populations. D'ailleurs, une étude, c'est curieux là, une étude faite par des Catalans a montré que les Basques, que ce soit aussi bien les Basques français que les Basques espagnols, à niveau génome entier, sont indistinguables des autres populations. Donc, qu'est-ce qu'on peut en résumer pour l'histoire européenne? Au paléolithique, arrivaient des premiers hommes anatomiquement modernes, il y a 45 000 ans, peu de contributions génétiques, maximum 15% de nos génomes. Dans le néolithique, arrivaient des premiers fermiers de croissants fertiles. Ça part du Moyen-Orient, probablement d'Anatolie, il y a environ 12 000 ans, et ça arrive à l'ouest-ouest il y a 6000 ans, associé avec des grands mouvements de population, et grâce à l'ADN ancien, dont je veux consacrer un cours entier, parce qu'il a révolutionné la compréhension des histoires de population, et surtout de la population européenne, qu'on la croyait extrêmement pauvre, extrêmement ennuyante quelque part, par rapport à l'étude des autres continents, comme les Africains ou le Pacifique. C'est grâce à l'ADN ancien, dans deux vendredis, je parlerai de ça. Et c'est pour ça que c'est un rouge, parce que c'est grâce à l'ADN ancien, on a découvert, c'est arrivé, à l'âge de bronze, des peuples d'éleveurs des steppes de l'Asie centrale, il y a environ 4500 ans, et ça a laissé une empreinte génétique forte dans le génome de nous tous. Et enfin, une forte structuration génétique reliée à la géographie. Les dernières 5 minutes, je vais les dédier à l'histoire de l'Asie, l'Australie, l'Océanie et les Amériques. Donc vous allez comprendre que ça va être très simple, que ça aura, méritera des cours entiers, parce qu'il y a des entiers départements au monde qui travaillent même sur une seule de ces régions. Mais juste pour la faire courte et pour vous illustrer un peu de quoi s'agit, l'Asie, on sait qu'elle était colonisée en deux grandes vagues qui correspondent à une première vague il y a plus de 60 000 ans, que c'est la fameuse vague sud. N'oubliez pas qu'on trouve des restes en Australie extrêmement anciens d'Homo sapiens d'il y a 40 000 ans déjà, et une deuxième vague que serait beaucoup plus récente. Il y a plein d'études. L'Asie, je dois dire que l'Asie continentale, pas l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, mais l'Asie continentale, surtout l'Asie du Centre et l'Asie du Nord et l'Asie de l'Est, ont été très peu étudiées d'un point de vue génétique. Donc on connaît relativement les modèles démographiques. Oui, on connaît des choses comme ça, qu'ici on peut voir les Européens, pour avoir une comparaison, ici vous avez Japonais et Coréens, ici les Thaïlandais, ici les populations des Indiens, de l'Inde, des populations des chasseurs-cueilleurs de Philippines, qui s'appellent les Negritos, et qui sont aussi petits, comme les Pygmées de l'Afrique, mais on connaît juste 3-4 papiers extrêmement descriptifs, hein, où il n'y a pas de vraies études de démographie. On part en Australie, sachez que jusqu'à il n'y a que 11-12 000 ans, l'Australie était rattachée à la Nouvelle-Guinée et à la Tasmanie, dans un continent qui s'appelait Saül. Et on sait aussi que toute cette région-là était de la terre aussi Sunda. Il n'y a que 11 000 ans. Donc, qu'est-ce qu'on sait de cette région ? Aussi, on a étudié, pour vous montrer aussi, le Pacifique. Et qu'est-ce qu'on sait ? Que l'Australie a été très vite colonisée, mais à peine l'Australie est colonisée il y a environ 40-50 000 ans, il y a déjà une structuration très forte que même si c'était le même continent, la sépare de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et toutes les îles ici. Vous pouvez voir ici que les aborigènes australiens, aujourd'hui, ils ont un grand niveau de métissage avec les Européens. On peut étudier, vous pouvez voir que dans une région avec plein d'îles, comme c'est le Pacifique, il y a plein de structurations génétiques. Ici, vous avez l'archipel du Bismarck, les Solomon, la Polynésie, etc. Et en l'occurrence, ici, il y a eu un vrai modèle démographique qui a vraiment estimé, et j'en finirai là, que Europe, Asie, que il y a environ 50 000 ans, se séparent déjà ces populations-là de l'Asie et passent par un goulot d'étranglement extrêmement fort. Il y a environ 37 000 ans, avec des intervalles de confiance pour une fois que sont assez décents, entre 25 et 40 000 ans, très vite, il y a déjà la séparation entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le Pacifique aurait été peuplé en plusieurs vagues, trois grandes vagues. Et pour finir, je suis désolé, je vais finir avec cette diapositive, que c'est le peuplement de l'Amérique. On sait que l'arrivée de l'homme dans les Amériques date d'environ 20 000 ans. Il vient d'Asie par le détroit de Bering. Que le pool génique des natifs américains est apparu probablement en Sibérie, il y a environ 23 000 ans. Ce sont les ancêtres de ceux qui deviendront les natifs américains. Et qu'il y a une seule grande vague d'entrée qui s'est séparée il y a environ 13 000 ans pour donner lieu au peuple du Nord, qui parle des langues Nadené, à le peuple du centre et du sud de l'Amérique, ce qu'on appelle les Amérindiens. et que les populations de l'Arctique, en revanche, les Inuits par exemple, provient d'une autre vague d'entrée beaucoup plus récente. Donc, mais les Américains d'aujourd'hui, n'oublions pas qu'il y a des entiers pays, des entières populations, personne n'est pur, entre guillemets, si ce mot existe. Vous pouvez voir ici, et ça on y reviendra largement sur ça, l'extrême niveau de métissage dans certaines populations de l'Amérique. Prenons l'exemple, pour moi, un exemple le plus éclatant, c'est Puerto Rico. Puerto Rico, ça c'est le bleu, c'est native américain, le rose, c'est de l'européen, et le vert, c'est de l'africain. En une seule île, vous récapitulez toute la diversité génétique de la planète. Et malheureusement, si vous voyez ici le bleu, et le rouge d'ailleurs, oubliant, non, le bleu et le vert, regardez le bleu et le vert. Si vous le regardez, malheureusement, ça montre parfaitement l'histoire de la colonisation européenne, qui tue massivement le bleu dès qu'ils arrivent aux Antilles, même pas la chance de se convertir au christianisme. Là, on tue directement. Et l'importation des esclaves d'origine africaine. Donc, si vous voulez connaître plus sur le métissage, comment étudier le métissage et surtout les conséquences biologiques et sociétales du métissage, je vous invite malheureusement pour mettre ensemble un groupe d'experts international, ça ne peut pas être en français, ça doit être en anglais, mais les plus grands experts au monde de métissage génétique seront au Collège de France le 9 et 10 juin, et vous êtes tous invités. Et merci encore de votre attention.